France Culture.
Trouvé en 77. Ça a été pris par qui déjà? Par un copain photographe. Et ça, wow, ça c'est une amie, Solange. En 2005, j'avais 64 ans. Elle est morte. J'étais à la campagne.
Quand les femmes vieillissent.
Bon, écoute, je sais pas.
Une série documentaire de Johanna Bedeau. Réalisée par Angélique Thibault.
Oh, ben là, je nage dans une piscine à 169.
Épisode 2. Trop vieille pour toi, et là, le corps triomphant.
À l'époque, on portait des robes tricotées à la main. Est-ce que c'est maman qui l'avait tricotée? Je n'en sais rien. Et alors, là, qu'est-ce que c'est? Je cueille des... Ah, ça, c'était l'émerveillement.
Nadine.
Ça doit être un pommier ou un cerisier ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est quand on est enfant, qu'on voit des fleurs dans les arbres. Et on avait des manches bouffantes à l'époque. C'est rigolo.
Avec un petit
Ah mon Dieu, vous y voyez mieux, quoi? Il faut que je mette mes lunettes, là. Oups.
Vous avez les cheveux bouclés quand même.
Ben oui. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Voilà. Ça, c'est avec ma fille. Oh là, c'est quand j'étais avec mon fils et ma fille. Et là, lui, il avait qu'une envie, c'était de téter. Quand il sentait que j'étais dans ses bras, il faisait... bon, puis après...
En soi, l'essentiel, c'est-à-dire la continuité de l'être. De ne pas se voir comme « je suis vieille aujourd'hui », mais « je suis tous les âges de ma vie ».
Alors, je suis un bébé extrêmement souriant.
Je suis encore l'enfant que j'ai
Regardez
été.
Comme je suis contente. Là.
Je suis la mère qui a donné naissance à Antoine. Je suis celle qui a pleuré François Châtelet. Je suis celle qui a écrit tel
elle
livre,
s'était déposée
tel autre,
tout autour
etc.
d'elle, en elle-même.
Elle est très belle, cette
C'était
photo.
Son présent, son avenir.
Parce qu'il y a des...
C'était la substance dont elle était faite.
Il y a un palmier derrière.
Je suis celle qui vit dans cette maison.
On dirait que j'ai des ailes.
Et je suis celle qui veut encore faire des choses.
Ah oui, c'est beau, hein.
De moi et pas seulement.
On dirait que c'est un décor, j'ai des ailes.
Pour moi, mais aussi pour les autres.
Je m'envole. Bon, non, j'étais un peu moche, quoi. Bon, j'étais rien.
Aucun héroïsme, aucune absurdité n'y pourrait rien changer. Certes, elle avait tout le temps avant sa mort d'apprendre le russe, de lire Dante, de voir Bruges et Constantinople.
Ça.
On est là, on garde pas entière d'eau, là. J'ai un grand glace là-bas. C'est les petits frères qui m'ont mis, ils l'avaient mis avant. Des fois, on a besoin, hein. Oh mon Dieu, t'en regardes plus, t'en regardes plus.
Raymonde.
Je me regarde plus, hein.
Vous ne regardez plus?
Ben non. Si j'ai besoin de regarder pour quelque chose, hein, je te regarde plus, t'es moche.
Est-ce qu'on est moche, vraiment, quand on vieillit?
Oh ben oui. Bon, oui. Si on repense quand on avait 20 ans, qu'on se regarde. Surtout que moi, je suis grosse en plus, alors c'est pas beau. Hein.
Vous ressembliez à quoi quand vous aviez 20 ans?
Bon. Comme tous les jeunes. Hein. J'étais pas plus moche qu'une autre. Même si j'avais rien.
Vous avez des photos de vous?
Ouais, mais je sais pas où elles sont.
Mais ça pèse, hein. Quand on est en mailloté là-dedans.
Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une fausse jambe?
Non, c'est une orthèse.
Et vous faites comment pour le mettre?
Je mets mon pied dedans. Dans les chaussures, il y a du fer. Et je tiens plus de ce côté-là. Alors, c'est pour me maintenir un peu plus droite.
Oh, les jolis pieds!
C'est tout.
Les jolies mains! Tout le reste est bon pour la poubelle. Les mollets sont des sacs vides et durement flétris les bras.
Brigitte Fontaine, lecture de Fastrazie dans Infinité culturelle 2023.
Sont une peau rageusement crépue, une peau de chagrin secouée de petits sanglots hachés. Le cou est celui d'un dindon. Je me délecte à détailler mes disgrâces. Fille, alors changeons de personne.
Aujourd'hui, qui me prendra en photo aujourd'hui? Personne.
Vos enfants?
Mes enfants?
Mmh.
Non, mais... Rien ne change dans le visage. Les traits sont plus appuyés, sont plus dessinés, sont plus... Quant au cou, alors n'en parlons pas, parce que c'est ce qui vieillit le plus vite, c'est le cou chez une femme. Surtout le mien, qui est moche comme tout, oui.
Tous les jours, je constate vraiment mon vieillissement physique. Le côté de la peau qui pendouille partout. De à chaque fois que je me cogne, j'ai ça ou ça. Les cheveux qui... Pff. Regardez-moi ça, comme ça pendouille. C'est une horreur. Et le matin, quand je me réveille, je me dis, mais qu'est-ce que t'es moche, pour pas me faire d'illusions sur moi-même. Mais comme je suis coquette, je me maquille pour être moins moche. Sinon, oui, bah, je constate tous les jours, quoi. Voilà.
Et le regard des autres, de votre entourage, mais dans la rue?
Alors, dans la rue, j'aime bien dire que j'ai 84 ans. Tout le monde me dit, ah mais vous les faites pas? Alors je réponds, oui mais je les ai. Et à la fois, bon donc j'aime assez qu'on me dise, vous les faites pas. Mais il y a aussi le fait qu'on soit vieux, ça vous donne des tas de droits. C'est-à-dire que souvent je me mets dans des colères noires. C'est-à-dire quand je vois quelqu'un qui jette un truc par terre... Je la ramasse en disant, espèce de connard. T'as pas vu qu'il y a, tous les 10 mètres, il y a des poubelles partout dans Paris? Les gens me regardent. Mais au moins, je peux le dire, quoi. Donc, je prends des colères comme ça. Ou...
Il y a une grande liberté qui va avec la vieillesse?
Oui.
Vous mettez toujours un foulard?
Ah, le foulard, c'est pour cacher le cou, je vous l'ai dit. C'est moche, le cou.
J'ai du mal à me voir à 80 ans, hein, ça c'est clair. On ne peut pas séparer le sentiment du temps, du temps objectif, c'est-à-dire d'une époque qui change. Au fur et à mesure que je changeais, je suis allée dans ma réflexion, dans mon travail, vers des questionnements qui m'intéressaient, comme je l'ai dit, profondément.
Noël Châtelet,
personnellement,
écrivaine et sociologue.
C'est de cette manière-là que je suis allée, que je suis entrée dans ce fameux voyage sur la chirurgie esthétique. Parce que j'étais à l'âge, j'avais la cinquantaine, j'étais à l'âge où moi-même je me posais la question de mon propre vieillissement. Pour une femme, il y a des moments charnières qui sont aussi imposés par le social, hein. Mais des moments charnières qu'on vit intensément à la fois parce qu'on les éprouve dans son corps, mais aussi parce qu'on a les diktats qui frappent à la porte sans arrêt pour nous les rappeler. Et qu'il faut faire attention, hein, pas les dépasser, hein, et puis bien les vivre, hein, et les vivre à sa place. Alors, ce que je raconte avec le corps, ce pourrait se résumer en un mot, c'est que le corps parle. Le corps parle, c'est-à-dire que c'est à travers lui que l'essentiel de soi se reflète et apparaît, comme dans un miroir, en effet. Mais un miroir qui, le temps avançant, devient de plus en plus cruel.
Pour moi, un corps vieillissant, c'est un corps que je commence à sentir, que je ne peux plus oublier.
J'aurais aimé savoir danser, pense à Françoise. Il y avait 10 ans qu'elle avait abandonné. Il était trop tard pour reprendre.
Alors que quand on est jeune, on n'y pense pas à son corps. Sa mère, c'est quand même une machine biologique absolument extraordinaire et qu'on oublie la plupart du temps.
Elle souleva un rideau et dans l'obscurité des coulisses, alluma une cigarette. Ici, au moins, elle aurait un peu de répit. Trop tard. Jamais elle ne serait une femme qui possède l'exacte maîtrise de son corps. Ce qu'elle pourrait acquérir aujourd'hui, ça n'était pas intéressant. Des enjolivements, des fioritures, ça lui resterait extérieur.
Donc là, ça devient plus difficile, le matin au réveil, et puis à d'autres moments de la journée. C'est un corps qui...
Catherine Vincent.
Qui ralentit.
Journaliste et écrivaine.
Un corps et une tête, peut-être, qui ralentissent, parce que la tête fait partie du corps, elle a une fonction particulière, mais quand même. C'est un sommeil qui n'est plus le sommeil de nos 20 ans. On doit dormir non-stop pendant des heures et des heures, sans se réveiller, sans être réveillé par des choses diverses et variées. C'est fini. C'est savoir qu'il y a des choses qu'on commence à ne plus pouvoir tout à fait faire et que demain on pourra sans doute plus les faire du tout.
C'était cela que ça signifiait 30 ans, une femme faite.
Emmanuelle Riva lit Simone de Beauvoir, l'invitée de 1974, les après-midi de France Culture.
Elle était pour l'éternité une femme qui ne sait pas danser, une femme qui n'a eu qu'un amour dans sa vie. Une femme qui n'a pas descendu en canoë les canyons du Colorado, ni traversé à pied les plateaux du Tibet. Certes, elle avait tout le temps avant sa mort d'apprendre le russe, de lire Dante, de voir Bruges et Constantinople. Elle pouvait encore semer ça et là dans sa vie des incidents imprévus, des talents neufs, mais ça n'en resterait pas moins jusqu'à la fin cette vie-ci et pas une autre. Et sa vie ne se distinguait pas d'elle-même. Avec un éblouissement douloureux, François se sentit transpercée d'une lumière aride et blanche qui ne laissait en elle aucun recoin d'espoir. Un moment, elle resta immobile à regarder briller dans la nuit le bout rouge de sa cigarette.
Bon, alors maintenant, comme vous voyez, c'est sans rien, sans maquillage. Peut-être qu'il en reste encore un petit peu, on ne sait jamais.
J'ai eu une relation à mon miroir que j'ai trouvée très étrange ces dernières années parce que je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a passé des heures à se regarder dans le miroir, mais enfin, je fais comme tout le monde. Le miroir, ça sert à voir quand même, pour moi, ce qu'on offre aux autres. Est-ce que ce qu'on offre aux autres, c'est suffisamment correct, ça va, ça correspond à ce qu'on veut être. Et puis, il y a pas si longtemps, je me suis rendu compte que, en fait, ça faisait des années que j'avais des stratégies d'évitement avec mon miroir. Alors, c'était subtil, mais je me regardais moins, je supporte plus les lumières crues dans la salle de bain. Mais c'était pas très conscientisé. Sauf dans le taxi où quand je voyais mon cou qui devenait un peu flétri de plus en plus dans le rétroviseur du chauffeur de taxi. Alors là, ça m'horrifiait, j'avais vraiment le miroir, je ne pouvais pas y échapper. Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de plus te regarder dans le miroir? Ça ne va pas, je vais finir dans le noir.
Tout est gris, sauf ce trait que je fais en ce moment.
Marie Laforêt, dans Dîme d'âme d'homme, 1965.
Pour moi, puisque j'étais à l'âge où je me posais des questions que d'autres avaient résolues en allant vers le scalpel, par exemple. Je voulais comprendre pourquoi ils y étaient allés. Je voulais m'assurer que je n'irais pas. Je n'en étais pas sûre, mais j'étais à peu près sûre. Mais je voulais savoir pourquoi je n'irais pas. Et j'ai voulu comprendre les motivations, surtout. Des bons médecins, des mauvais médecins, parce qu'il y a des bons et des mauvais, vraiment. Il y a ceux qui veulent vraiment aider les femmes en particulier à résoudre ce problème énorme qui est la discordance, c'est-à-dire le sentiment qu'on a de son visage et puis tout à coup ce visage qui apparaît dans le miroir et qui vous renvoie une image mais étrangère et hostile évidemment. Derrière toutes ces demandes de transformation, en particulier vers la jeunesse, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à travers cette opération ? C'est pas seulement d'être jeune. C'est quelque chose de fondamental. La première, un retour à une forme d'identité, une quête d'identité, l'effacement de discordance, par exemple, mais aussi un besoin d'amour. Et que toutes les femmes qui disent « Oh, je le fais pas, pour, hein, je le fais pour moi, mais c'est qui pour moi ?» Ce « je le fais pour moi », c'est « je le fais pour le regard que les autres aussi ont sur moi ». Et cet autre, c'est cette société et cet impérialisme de la jeunesse et de la beauté qui fait des ravages, y compris aujourd'hui sur les femmes de 20 ans. Je pense que la vieillesse est d'autant plus difficile à vivre qu'elle contient cette angoisse-là, qu'elle nous l'impose aussi. Mais elle a raison de nous l'imposer, elle est là, elle est objective, alors pour le coup, on n'est pas immortel, malgré tous les efforts qui sont faits chez les hurluberlus pour nous faire croire qu'on pourrait vivre 100 ans. 100 ans. Moi, je n'ai pas envie de vivre au-delà de 95 ans.
Je restais plantée devant ma glace. Je pensais vaguement que j'aurais pu avoir une vie différente. J'aurais pu m'habiller, m'exhiber, connaître les petits plaisirs de la vanité ou les grandes fièvres des sens. C'était trop tard. Et soudain, j'ai compris pourquoi mon passé me semble parfois celui d'une autre. C'est à présent que je suis une autre. Une femme de 39 ans. Une femme qui a un âge. J'ai dit à voix haute, j'ai un âge. Je me retrouve pour apprendre que je suis condamnée. Ma vieillesse m'attend. Aucun moyen de lui échapper. Déjà, je l'entrevois au fond du miroir. Oh, je suis encore une femme. Je saigne encore chaque mois. Seulement, maintenant, je sais. Je soulève mes cheveux. Ces stries blanches, ce n'est plus une curiosité ni un signe. Un commencement. Ma tête va prendre vivante la couleur de mes os. Mon visage peut encore paraître lisse et dru, mais d'un instant à l'autre, le masque va s'effondrer, dénudant des yeux enrhumés de vieille femme. Les saisons se recommencent, les défaites se réparent, mais il n'y a aucun moyen d'arrêter ma décrépitude.
Merci, bonjour, monsieur. Bonjour.
Bonjour, madame.
1,60 €.
Merci, merci beaucoup.
Comment vous vous appelez ?
Raymonde.
Vous avez quel âge, vous, Raymonde ?
82 ans passés.
Et vous habitez à Paris ?
Oui. Je suis dans le 14e, dans mon logement. Enfin,
d'accord.
Un logement des petits frères.
Ok. Et alors vous, vous avez grandi comment, Raymonde?
Je ne sais pas ce que ça c'est grandir. Dès que je suis venue au monde, les médecins, tout ça, ils ont fait tout pour que ma mère m'abandonne. Pour voir dans l'état où ma mère était. Et puis, bon, ben, comme c'était la guerre, naturellement, tous les enfants naissaient pas assez gros. Et comme ma mère, en plus, avait plus d'alcool que de manger dans le corps, j'aurais dû aller en couveuse, je ne suis pas allée, puisqu'il n'y avait plus de place. Il me fallait une chambre chaude. Ah ben, c'était le terrain vague. J'ai dormi jusqu'à 4 ans, pratiquement dehors. De 4 ans à 5 ans, bon ben, on a fait les fêtes foraines. J'ai vécu dans une roulotte, mais on dormait par terre, hein, sur un matelas. Hein. Et puis tout ça sans amour, sans rien. Je ne sais pas ce que c'est qu'un mot d'amour de ma mère. Hein. Moi, je me souviens juste que j'allais dans un manège. De l'ouverture à la fermeture, j'y étais. Comme ça, j'étais tranquille. C'est le seul moment de bien que j'ai passé dans mon enfance, c'est dans cette fête foraine. Parce que les forains étaient gentils avec moi. Mais autrement, ma mère...
Et après, vous avez été sauvée comment de tout ça, alors?
Ben après, j'étais à l'école, la grande école. Et puis bon, ben après, j'ai continué comme ça, dans les taudis, jusqu'à ce que je me marie. À 18 ans, j'en ai eu marre. Je voulais partir, mais on ne pouvait pas. Hein. La majorité était à 21 ans à l'époque. Alors je me suis mariée avec le premier venu.
Qui était gentil? Qui n'était pas un homme violent?
Non. Ben, il a essayé. Mais il est tombé sur un os parce que moi, j'étais habituée aux bagarres au couteau chez moi. Alors, avec ma grand-mère, chez ma grand-mère, toute petite, ça se battait au couteau là-dedans. Il l'a fait deux fois, mais pas trois. Hein. J'ai dit... Et puis après, c'est calmé, ça a été.
Vous avez eu des enfants, vous?
Trois.
Et vous avez fait quoi comme travail?
Travailler dans les écoles et après dans les résidences de troisième âge, dans les cuisines. Il y avait 650 couverts à l'école, il n'y avait pas de machine à laver hein, à l'époque. Et les purées, c'était avec des gros moulins légumes comme nos petits à nous. Mais c'était comme ça. Hein.
Comment vous avez vu votre corps vieillir? Vous vous êtes sentie vieille à un moment donné ou vous n'êtes pas posé de questions?
Ça se fait. Puis moi, j'accepte, c'est la vie, c'est comme ça, hein, de toute façon. On est jeune, on est moins jeune, on est vieux. Maintenant, moi, si je meurs, c'est la délivrance hein, pour moi. Que la vie continue comme ça jusqu'à ma mort. Parce que là, ça fait peur, hein, ce qui se passe.
Pourquoi?
Bah, dans le monde... On est quand même à la porte de la guerre. Hein.
La propreté des pièces et de la literie sont-elles obligatoires?
Je crois que vieillir dérange profondément. Je crois que, bah parce que on préfère être jeune et beau, riche si possible, que vieux et en mauvaise santé. Parce que c'est quand même l'antichambre de la mort. Alors d'abord c'est une antichambre lointaine, puis ça se rapproche de plus en plus. Donc tout ça n'est pas très agréable. Et que voir les autres vieux, bah c'est se voir, c'est l'avenir qui passe. Donc ça fait partie, je pense, des grandes craintes et d'où ce déni.
Déjeuner, carottes, tomates, basilic, fromage, jambon, vinaigrette. Après l'éclair décongelé, au micro-ondes pendant une minute. Je marque tout. Hein. Descendre vers le reflet Médicis pour voir deux films de Cocteau. Le bus 38 passe, je le prends et il me dépose boulevard de je sais pas quoi, rue des Écoles. Le premier film de Cocteau est hypnotique. Je suis conquise par les images et les beaux mecs et les belles meufs qui pullulent autour de lui. Amusant, cette plongée dans le passé. Retour en marchant au 44, compte du mois. Ah oui, parce que c'était le 31 mai, donc je fais mes comptes au centime près. C'est de vieilles méthodes, de vieilles bonnes femmes, ça. Hein. On comptait dans son porte-monnaie ce qu'on avait. Moi, j'ai continué à ça. Bah, en plus, tiens, ça c'est ma concierge qui apporte Télérama, sans doute. Non, on est mardi ? Si, peut-être.
Comment vous voulez qu'on vous appelle ?
Nadine ? Oui. Ah non, moi, j'ai rien à cacher à qui que ce soit. Hein.
Donc, vous appelez Nadine. Ouais. Vous avez quel âge, vous, Nadine ?
J'ai eu 84 ans le 18 août dernier. Je vais joyeusement sur mes 85 ans. Je suis née en 41. Voilà.
Ah oui, vous mettez, vous collez des... C'est
ah
génial.
Oui, parce que les images, ça aide la mémoire.
Ça me sert. Hein.
Parce que de temps en temps, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y avait ? Descendre vers 11h pour des courses. Au marché Saint-Quentin. Il y a du monde chez les Asiatiques, Lucie et Thomas, où j'achète 3 pommes Chanteclair pour 1,27€. Chez Aldi, toujours aussi bordélique, je fais le plein pour quelques jours. Rentrée vers le 44, où je trouve Télérama dans ma boîte aux lettres. Déjeuner rapide en écoutant Inter. Décision. Pas de film aujourd'hui, mais exposition Christine Croza. Descente donc vers 14h pour Château d'Eau, jusqu'à Saint-Germain-des-Prés. Alors là, bon, bah, je sors dans la rue déjà sombre et remonte par la rue Saint-Benoît où je déjeunais de temps en temps, il y a 60 ans. Quand j'avais 4 ans, 45, à la Libération, mon père, ma mère, mes frères et moi, nous sommes partis en Afrique noire. C'était bien avant les indépendances, évidemment. Et on est allé à un peu partout. Mon père était employé de banque. Et nous sommes allés à Abidjan, nous sommes allés en Guinée, nous sommes allés au Congo, à Brazzaville. Après, j'ai été au Gabon. Et qui j'ai connu là ? Jean Rouche, voilà. Jean Rouche, tombé amoureux.
Alors,
j'avais 17-18 ans, j'étais au lycée français d'Afrique noire à Cocody. C'est joli comme nom, hein, Cocody. Et bon, ça a été assez extraordinaire comme rencontre. Et c'est en fait grâce au fait d'avoir connu Rouche que j'ai fait des études. Et donc, je me suis inscrite à la Sorbonne. Puis j'ai eu des professeurs extraordinaires comme Raymond Aron, Jean Kelevitch. Jean Kelevitch qui parlait comme ça J'ai même écrit une thèse que j'ai jamais soutenue parce que Rouche était là. Et Rouche, il m'emmenait tout le temps partout.
Comment vous avez envie qu'on vous appelle, à part évidemment Nadine ? Les seniors, les personnes âgées ?
Ça m'est complètement égal. Je peux être une vieille. D'ailleurs, c'est ce que je dis en général aux gens. Mais vous savez, je suis une vieille, moi. Je peux me permettre tout. Senior, non. Senior, c'est ce qu'emploient les gens gentils qui ne veulent pas choquer les gens. Les quoi de personnes âgées ? Bon, oui, personnes âgées. Mais ça veut dire quoi ? Vous êtes une personne âgée à partir de quel âge ? Et jusqu'à quel âge ? Ça ne veut rien dire, en fait. Moi, je suis une vieille.
Ah, c'est vous, avec...
Avec Antoine, avec des bonnes joues, parce que un gourmand.
Ça, c'est votre compagnon.
J'avais 21 ans. 20... Qu'est-ce que je raconte ? 23 ans. Ça, c'est mes petites filles. Ça, c'est ma maman. Ça, c'est Antoine, à 17 ans, quand François est mort. Et ça, c'était pour mes 60 ans. Voilà. Les photos, tu vois, mes 60 ans, ce qu'elles ont de formidable, c'est qu'elles saisissent le temps à un moment donné. Mmh. Elles le figent pour l'éternité.
comme j'ai aujourd'hui 80 ans, j'en ai quelques-unes dans la mémoire, mais j'arrive à les garder à peu près toutes. Et cette maison, j'y suis maintenant depuis 53 ans, et cette maison, j'ai voulu absolument la garder, alors que tout le monde me disait de la fuir, de la fuir comme on doit fuir la mort et les morts. Et j'ai perdu un grand amour, on voulait aussi que je perde la maison de l'amour. Et je l'ai gardée en faisant beaucoup d'efforts, mais elle m'appartient aujourd'hui, j'en suis très 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 fière. J'y tiens beaucoup. Voilà. Et ce meuble chinois qui est là, vous voyez derrière, il a une grande valeur. Il était dans ma maison d'enfance. Et les bougies d'anniversaire, elles sont toujours dans le même tiroir. Et dans l'armoire qui est en dessous, là. Si vous saviez ce qu'il y a. Vous savez ce qu'il y a dans l'armoire qui est en dessous? Il y a tous les cheveux de ma mère depuis qu'elle se les est coupés, depuis l'âge de 40 ans. Elle les avait gardés. Tressés. Ils étaient dans un gros paquet. J'ai dit, je les prends. J'y ai mêlé les boucles de mon fils, les boucles de mes petites filles. Et je garderai d'autres boucles encore, mais tous ces cheveux, et il m'arrive de les regarder, de plonger mes mains et mon visage dedans en me disant, c'est ça aussi le temps qui passe. Avec le brun qui va vers le gris, puis vers le blanc. À un moment donné, elle avait une très grande natte blanche, ma mère, d'une beauté incroyable. Elle est là. Alors ma mère, elle disait, on ne devrait pas considérer la mort de quelqu'un comme quelque chose de plus difficile à vivre que l'arrivée d'un être vivant. Pour elle, c'était vraiment le cycle. À cause d'une scène que j'ai appelée la scène de la chemise de nuit, où elle m'a dit, écoute, va chercher ma chemise de nuit qui est dans la salle de bain. Alors, je suis allée dans la salle de bain, je suis revenue avec la chemise de nuit, elle me dit, retourne-la. Elle était toute rapiécée, elle me dit, oh, quand même, cela me fiche mal, non, si on me trouve dans une chemise de nuit toute rapiécée. Et là, on a commencé à rire. Parce que je lui ai dit, mais maman, tu te rends compte, tu es en train de rire et de me faire rire à propos de la chemise de nuit que tu vas mettre pour nous quitter. Mais il était entendu qu'elle partirait le jour où elle l'avait choisie et que nous étions d'accord, nous, les enfants. Mais le jour où elle nous a dit, le jour de ses 92 ans, après avoir soufflé tant bien que mal ses bougies, qu'elle nous a annoncé la date de son départ, entre l'accord de principe sur lequel tout le monde était d'accord, et puis l'arrivée de la date, on s'est trouvé devant un gouffre énorme. Et en même temps, elle était si triste de nous voir si peu préparés qu'elle a eu un malaise, on l'a emmenée dans sa chambre. Là, je me suis assise à côté d'elle et j'ai vu deux larmes couler sur ses joues. Elle était très pâle. Elle aurait pu mourir de déception, là. Et elle m'a dit, maintenant, il faut que vous m'aidiez, mes enfants. Et j'apprenais la paix, la sérénité, de me mettre à l'intérieur de son corps et de sa tête. Et non plus de rester à l'extérieur. D'essayer de sentir le poids qu'était pour elle la vie sur ses épaules, ses reins, ses jambes, de ce que représentait le fait de faire pipi au lit et même plus. Pour cette femme qui avait, pour raison première, de ne pas s'accepter fatiguée et de ne pas se voir comme un poids, ni pour ses enfants, ni pour le monde, ni pour la société. Et c'est à ce moment-là que je lui ai demandé de m'aider à l'aider, si je puis dire.
Comment vous avez fait ?
Je lui ai dit, la date c'est trop dur, c'est trop tôt, c'est le lendemain de mon anniversaire, le 16 octobre. Donne-moi un peu plus de temps, mais prends-moi la main et apprends-moi la mort. Et c'est ce qu'elle a fait.
Voilà Bernadette.
Bonjour Bernadette.
Voilà Bernadette.
Enchantée.
Qui veille sur la maison.
Enchantée.
Et qui veille sur moi aussi. Ça va bien?
Ah ouais.
Eh oui. Je supporte tout.
Vous la supportez depuis 20 ans.
Je dis toujours réciproquement.
Donc elle est là. Vous avez des menottes sur le porte-clés?
Bravo.
Sur le porte-clés, autour du cou.
Je suis très menottée. Alors vous voulez écouter ma sonnette? Une seule clé. Et je vous laisse rentrer.
Vous appelez quoi, Kiki, du coup?
Ah, comment on m'appelle? Je sais pas. Kiki Dalcy?
Kiki?
Kiki Dalcy?
Je pose les clés. Kiki Dalcy, vous avez quel âge, là, aujourd'hui?
82.
82. Et est-ce que vous pratiquez encore?
Oui, bien sûr, oui, oui. Sur les papiers, je suis retraitée avec continuité de ma pratique. Alors, je pratique 2 jours par semaine, mais écoutez, je ne peux pas avoir une vie de retraité. Hein. Les amis que je vois autour de moi, ils ont beau jouer au golf, jouer au bridge, faire de la rando et de la rando et de la piscine. Excusez-moi, mais ce n'est pas ma vie. Voilà, je pense que je m'emmerderai d'une façon catastrophique.
Est-ce que vieillir, ça a été pour vous compliqué? Est-ce que...
Excusez-moi, mais je n'ai pas le sentiment du vieillissement. Je pense que si un jour j'ai des limites sur le plan intellectuel, sur le plan cérébral, peut-être, oui, sûrement, à condition que je m'en rende compte à ce moment-là. Sur le plan physique, je suis entouré de gens qui actuellement sont tous avec un certain nombre de pièces détachées qui réparent. Pour l'instant, je suis pas superstitieuse, alors je vais pas toucher du bois, mais j'ai failli le faire, quoi. Le patio. Le patio, voilà.
Vous pouvez parler normalement.
Voilà. Alors voilà la tour qui était complètement ruinée et qui a été reprise avec un toit plat qui fait terrasse là-haut. Voilà.
Comment on vieillit ensemble quand vous prenez votre retraite?
Elle prend la sienne.
Geneviève est la première à prendre sa retraite.
Ah bah oui, on a 11 ans et demi d'écart. Oui. J'ai le même air.
Je sais pas, celui-là, c'est...
Provence ici la cour.
Moi, je pense que ma mère... On a vécu 45 ans ensemble, d'une façon harmonieuse, d'une façon heureuse et d'une façon non conflictuelle, jamais. Avec chacun son territoire, chacune son territoire, mais aussi le partage d'une même vision de l'humain, de l'autre. On faisait un peu la tête et les jambes, en fait, dans une complétude. C'était... voilà.
comment dire, il y a des tas des applis de rencontre, les fameuses applis de rencontre.
Pour des vieux ?
Pour des vieux, bah évidemment. Moi, j'ai jamais fait ça parce que je me dis, j'ai pas besoin. Je connais des tas de vieilles personnes qui les utilisent. Moi, j'ai arrêté les aventures sexuelles. J'avais déjà un âge assez avancé, je devais avoir 75 ans ou 17 ans, je sais plus. Je les ai arrêtés parce que je me suis dit, oh, c'est quand même terrible de montrer ça à un pauvre mec. C'est moche, quoi.
Bah, une nuit, en fait.
Mais non, parce qu'ils étaient plus jeunes. Oui. Moi, c'est toujours des jeunes qui m'ont attiré, 30 ans, 40 ans de moins que moi, quoi. Oui.
Pourquoi vous avez dit, j'arrête?
Parce que j'avais pas envie de me montrer moche. Et puis qu'on peut satisfaire soi-même. Parce que les vieux, ils sont chiants. C'est des machistes en plus. Ils ont une mentalité, une moralité de vieux. Ah oui, ça a été vraiment très très bien. Quoi.
Alors si vous vous tournez vite, vous pouvez peut-être vous voir. Allez-y, 1, 2, 3.
Bonjour à toutes. Et à tous, puisqu'il y a des hommes...
Le contre-salon des vieilles et des vieux. Bordeaux, 2025.
Pendant une heure et demie autour du thème « Être ou paraître une question de vieux » avec un point d'interrogation. Alors, les sujets sont innombrables. Évolution de la sexualité...
C'est quand même un sujet qui est tellement intime et tellement personnel qu'il y a à tous les âges des gens qui peuvent en parler très librement et qui peuvent vivre librement et d'autres qui ne peuvent pas.
Un témoin, alors. Juste par rapport au médecin, d'abord, et ça n'a pas rien... J'ai vu un urologue un jour, il y a très longtemps, parce qu'il fallait, et là, je me sentais obligé de m'excuser sur mon multi-piercing à la quéquette, et sa réponse avait été « Non, mais vous entretenez votre libido ».
C'est pas forcément vrai qu'à 80 ans, on a du désir sexuel, et en tout cas certainement pas comme à 20. C'est pas non plus tout vrai, et ça c'est avéré que c'est très facile, il faut changer ses pratiques, enfin il faut réfléchir, il faut repenser la sexualité.
La vieillesse est hyper sympa, notamment grâce à la sexualité, et rentre la vieillesse sexy. En fait, il faut quand même se rendre compte que...
Au fond, l'enjeu c'est ça, c'est quand, en vieillissant, quand on a la chance d'être en couple, parce que c'est vrai que faire des conquêtes à 70 ans, c'est pas, ça arrive. Hein. Donc, continuer à explorer sa sensualité à deux, eh ben, ça vaut le coup, je pense, de travailler à comment on la transforme.
Que représente le toucher, Catherine Vincent, quand on est vieux, vis-à-vis du corps vieux?
Alors, le toucher, il y a une enquête qui a été très, très jolie, qui a été faite par... Les petits frères des pauvres, qui date de 2022, et c'est une des rares études, il faut le souligner, parce que c'est une des rares études en France, alors elle n'est pas sociologique au sens aussi pointu que quand c'est une grosse équipe du CNRS de sociologues qui s'en empare, mais ça fait du bien, parce que c'est une des rares études qui a vraiment cherché à comprendre quel était le quotidien des vieux et des très vieux en matière de, j'ai envie de dire, en matière de sensualité, parce qu'effectivement, ce n'est pas que la sexualité. Et on voit très bien que pour beaucoup de personnes, donc, âgés de 60 ans et bien plus, presque tous disent que le sentiment amoureux et la sensualité perdurent. Pour 71% des personnes âgées, un corps qui vieillit peut rester désirable, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, et 41% des 80 ans et plus se trouvent séduisants.
Moi j'adore... tous les aspects, disons... sexuel au même titre que tous les autres plaisirs de ma vie. Je les aime, c'est tout.
Michel.
Moi, j'adore le corps de mon mari, mais il n'a plus l'image d'un objet sexuel comme on l'imagine, je sais pas, dans les magazines, quoi. Ça marche plus. À partir de, disons, la ménopause et l'andropause. Moi, j'ai eu des problème que j'ai encore d'ailleurs d'arthrose, donc coxarthrose, j'ai mes deux hanches en titane, donc chaque fois une opération, etc. J'ai eu aussi une opération dans le canal lombaire parce que j'avais plein d'arthrose sur la colonne vertébrale, donc bon, ça va, j'ai eu deux fois un cancer du sein à 13 ans d'intervalle. Mon mari a aussi un cancer, Une leucémie, pas grave, mais le genre de truc qu'on peut vivre avec, mais il faut soigner. Il a quand même eu une chimiothérapie, mais chaque fois, il faut inventer, parce que quand on a les hanches en mauvais état, ça pose des problèmes, bon, etc. J'ai perdu un sein, bon, j'en ai plus qu'un. Il faut inventer des choses là, mais ça s'est fait assez naturellement. Petit à petit, on trouve des dérivatifs, des moyens de faire, d'avoir quand même l'un et l'autre du plaisir. En fait, c'est ça. On cherche du plaisir et on ne peut pas le faire le soir parce qu'on est trop fatigué le soir. Le corps est... Il a besoin de dormir, on s'endort dans son fauteuil le soir. Et surtout, l'acte sexuel ne peut plus tout simplement se réduire à ce qu'on imagine, pénétration et puis basta. Il faut des objets parce que ben, ça ne marche plus si bien qu'avant.
Vous avez entendu parler du comment dit le point G, c'est ça? Le point G. Ben, le point G, les mecs ils savent pas où c'est. Ils pensent qu'à se voilà, qu'elle se satisfaire, mais une femme, elle peut très très bien, avec n'importe quoi, un jouet, n'importe quoi, elle, ou ses mains, elle peut très très bien se faire jouir. Et oui, pas besoin d'un mec.
Et c'est pas lié à l'âge?
Mais non, pas du tout. Vous pouvez jouir jusqu'à la fin de vos jours. Ben oui. Enfin, j'espère, je sais pas, faudrait demander à quelqu'un qui a 102 ans.
Et même un dimanche matin, le plaisir n'a jamais eu fin.
Il y a des femmes qui ont plus de 100 ans, bien sûr. Bah, faudrait leur demander, mais est-ce qu'elles oseraient le dire?
Oui.
J'en sais rien.
Allez, on est toujours intéressés par le plaisir.
Je crois que monsieur est avant.
Allez-y.
Oui.
Allez-y, monsieur. Merci.
On nous avait dit, il faut des sex toys, on en ramène, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir.
Est-ce qu'il y en a des adaptés quand on a trop d'arthrose?
Vous consulterez en bas, vous consulterez en bas.
C'est notre prochaine création.
Pourquoi dans cette société, ce qui est magnifique lorsqu'on a 20 ans, on met
Francis
vraiment
Carrier,
la sexualité
militant,
des jeunes,
cofondateur du CNAV et de TV Vioc.
Et puis progressivement, ça devient quelque chose de dégueulasse et d'inapproprié. Comment on peut lutter contre ça? Parce qu'on est tous enfermés dans ces représentations.
On est tous enfermés dans ces représentations. C'est ça qui est important, parce que je suis médecin, donc je suis psychiatre, mais psychogériatre et sexologue. Et les patients, en fait, étaient très étonnés que je leur parle et que je leur pose la question, en fait, de sexualité, de vie intime, de vie privée. Et très souvent, on me disait, enfin, il y a quelqu'un qui m'en parle. Et les médecins ne sont pas formés à ça. La société n'est pas formée à ça. Personne ne parle, en fait, de ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a la libération.
Céline
en fait,
Candillier, psychiatre
sexuelle,
et sexologue.
Il n'y a pas eu d'éducation, et c'est effectivement le marketing et la pornographie qui ont pris la place. Et il manque effectivement une éducation à tous les âges, puisque le vieillissement, c'est pas, on n'est pas vieux à un moment, c'est un processus qui débute, en fait. Hein. Il débute dès qu'on est, et petit à petit, notre corps évolue, notre sensibilité évolue, et il faut pouvoir s'adapter petit à petit à toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'en parle pas, on l'a dit, hein, toutes les représentations sociale qu'on avait, le fait que le jeunisme soit mis en avant, et on n'a pas le droit de dire vieux, donc, alors que c'est ni une honte ni un tabou. Et ce qui serait important, je pense, c'est de pouvoir, comme on le fait là, pouvoir en parler librement aujourd'hui. Et plus on en parlera, plus on montrera qu'on peut utiliser son corps, plus on peut montrer que notre corps, à tous les âges, il a des nouvelles capacités, il y a des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent. Certes, on en perd certaines. Il y en a d'autres qui se modifient, mais il y en a d'autres qui apparaissent. Et ça, ce qui est important, c'est qu'on ne met pas en avant ça.
Madame ?
J'ai une petite question. Je n'ai pas la réponse, hein, parce que c'est une question de professionnel dans un accueil de jour avec lequel j'ai été en contact. Dans cet accueil de jour, donc, étaient accueillies des personnes avec des maladies neurodégénératives, Alzheimer, +++. Et il y avait un couple, un homme et une femme, qui n'étaient pas ensemble, hein, mais qui se retrouvaient toutes les semaines dans cet accueil de jour, qui étaient totalement fous, amoureux l'un de l'autre quand ils étaient dans l'accueil de jour, mais une fois qu'ils repartaient, ils s'oubliaient, quoi. Et chaque fois qu'ils revenaient toutes les semaines, eh bien, ils retombaient amoureux.
Et alors, eh ben, progressivement, ils ont demandé au personnel de l'accueil de jour de leur mettre à disposition une chambre, quand ils étaient là. Eh ben, le personnel n'a pas accepté.
En EHPAD, par exemple, il y a des couples, en fait, il y a des gens qui ont des troubles neurodégénératifs et qui se mettent en couple alors que leur partenaire est encore à l'extérieur, il est toujours...
L'accueil de jour, c'est pas un domicile.
Oui, non. Je reviendrai à la même chose. En fait, si les deux sont consentants et il n'y a pas d'apport extérieur d'un tiers, il n'y a pas de proxénétisme, on a le droit d'avoir, qu'on soit à des troubles neurocognitifs ou pas, si on a envie d'aller faire l'amour dans le jardin ensemble, ben on peut.
C'est-à-dire qu'on n'est plus apte à savoir quel est notre désir. On n'est plus apte à décider du moment où on va pouvoir l'exprimer ou ne pas l'exprimer, mais que ce soit nos choix. Nos choix, pour moi, c'est des choix fondamentaux qui doivent rester. Enlever ce choix, c'est enlever notre intégrité. Et c'est nous amputer d'une part de nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas accessoire. C'est pas du tout accessoire. Moi, j'ai créé Grey Pride et j'ai créé le label Grey Pride Bienvenue pour parler de la sexualité, parce que la sexualité, pour moi, est très proche de l'identité. Toucher à la sexualité, c'est toucher à l'identité des personnes. Et lorsqu'on n'a pas d'identité, on devient un objet. Et faire comprendre que quand on parle à quelqu'un, un vieux, et que nous, on parle à nos vieux, et qu'on entend parler de nous, il faut ne pas transiger et dire « je suis un sujet, et je veux rester un sujet, et mes choix, c'est chacun qui doit pouvoir les conserver.
Hein, » Exactement.
Bon.
Non, Madame. Mais tout à fait, il y a... Oui.
Merci. C'est juste une anecdote. J'ai travaillé 30 ans en hôpital gériatrique comme psychologue et c'est vrai que là, les gens les touchent pour les piqûres, les prises de sang, les pansements d'escarres. Et je me souviens d'une vieille dame qui était alitée, elle avait quelque chose de grave dans un petit lit, 80 cm. C'était en grande banlieue parisienne et le mari, il venait tous les jours, il prenait un autocar, parce qu'il est en temps qu'il ne conduisait plus. Il faisait 1h30 d'autocar, il venait voir sa femme et quand il arrivait, mais on le laissait faire, il s'allongeait dans le lit à côté de sa femme, dans ce lit de 80 cm, et il restait là pendant 1h30, à 15h30, il repartait prendre son autocar de retour et ils restaient tous les deux couchés, se serrant l'un contre l'autre. Ils se parlaient presque pas, mais ils étaient là et ils avaient l'air bien et ils avaient l'air heureux.
Dans un endroit magnifique, au pied de la tour, sous les pins, sous le ciel bleu, et on a fait quelque chose en granit bleu, labrador de Finlande, d'un bleu qui est jaspé, un peu argenté, discret, avec nos deux places. Bon. On a planté autour 4 petits cyprès florentins, du romarin à leurs pieds, des petits lauriers blancs et roses, et derrière un bambou. Je vous montrerai, si ça vous intéresse. Et donc, il y a nos deux noms déjà décrits. Là. Il y en a qui sont choqués par cette chose-là. Donc, d'abord parce que on avait aussi partagé l'idée de nos fins de vie. La fin de vie fait partie de la vie. Enfin, c'est... Quand j'en parle, ça me reprend, là, vous voyez, ça me prend là dans l'estomac et ça remonte comme étant une sorte d'engagement personnel, un engagement de vie. Et en fait, si vous voulez, il n'y a pas de tristesse sur ça, il n'y a pas d'angoisse, il y a quelque chose qui est un continuum, et un continuum serein. Et on s'était dit que c'était essentiel qu'on soit côte à côte, qu'on accompagne l'une ou l'autre en se donnant la main. C'est ce qui a été le cas. C'est-à-dire de faire pour les derniers jours, dans la pièce qui était une salle à manger, une pièce d'hôpital, pour des soins palliatifs, comme on dit, côte à côte, avec un lit médicalisé, moi un petit lit à côté, et main dans la main.
Maintenant, je compte le temps qu'il me reste.
Par rapport à quelle échelle?
Ben, une échelle inconnue.
Qu'est-ce que vous comptez alors?
Je me dis, mais... Si je peux encore vivre 10 ans, c'est merveilleux, mais c'est très peu 10 ans. Est-ce que je vais avoir le temps de tout faire, de tout écrire, de tout dire? de les voir assez longtemps, mes deux petites filles de 16 et 18 ans, mon fils, les êtres que j'aime, etc.
Dans un endroit magnifique, au pied de la tour.
Chaque minute compte, comme elles n'ont jamais compté aujourd'hui pour moi, jamais.
Je vous montrerai, si ça vous intéresse.
Et voilà.
Elle est belle, ce soleil, hein. Non, mais là, elle est belle comme Pierre.
Très belle.
Un peu poussiéreuse par le... On a du vent qui rapporte du sable du Sahara, et ça jaunit un petit peu les choses. Voilà, bientôt on va avoir des fleurs de romarin qui sont très belles. Non, c'est très bien là, plein soleil, superbe. Très bien. On est bien, hein ? Là, une petite sieste au soleil, avant la grande sieste.
Maman est morte à 90 ans. Elle était née en 1913. Ma grand-mère est morte à 80 ans. Elle était née en 1888. Et moi, je suis morte à... Je sais pas encore. So let's stay.
C'était « Quand les femmes vieillissent », une série documentaire de Johanna Bedeau, réalisée par Angélique Thibault. Épisode 2, « Trop vieille pour toi, le corps triomphant ». Avec Noël Châtelet, Michel, Raymonde, Nadine, Kiki Dalcy, Céline Candillier, Catherine Vincent, Francis Carrier. Merci à Julien Donada, Gérard Ribes, TV Vioque, Marie Charelle, Fabienne Brugère et aux équipes du Contre-Salon des Vieilles et des Vieux. Prise de son Alexandre Martin, mixage Manu Couturier, archivina Sylvia Monduc, documentation Annie Signoret, chargée de programme Marie-Vanna Bolivier et Anaïs Morales, coordination Emmanuel Laurentin. À suivre, épisode 3, Les Vieilles Dames qui Marchent, Debout et Résistantes.